C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est inspiré d'Handel, il a été composé par le Britannique Tony Britten. Il est chanté en trois langues, il est un brin pompeux et surtout il est de retour ce soir. C'est l'hymne de la Ligue des Champions, une musique et souvent une promesse, celle de vivre une soirée spéciale, surtout quand Tottenham et l'Ajax Amsterdam sont sur les terrains. Les deux équipes surprises de cette saison européenne s'affrontent en demi-finale aller ce soir. Les deux clubs ont marqué les esprits, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'occasion des tours précédents. Alors, dans un souci d'équilibre, pour l'avant-match, nous avons invité un amoureux du football batave, du football néerlandais, Sheriff Gemour. Bonjour Sheriff.
Bonjour à tous.
Et un amoureux du football anglais, Bruno Constant. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous.
Alors, pour arbitrer au milieu, nous avons invité un juge de paix, Gilles Verdez.
Bonjour.
Et un maître, ça. Un sage, un ancien, un grand, grand nom du football africain, le consultant de RFI lors des Coupes d'Afrique des Nations, Joseph-Antoine Bell. Bonjour Joseph-Antoine Bell.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Merci d'être passé par notre studio. Vous êtes en visite en France, à Paris, et c'est un plaisir, bien sûr, comme toujours, de vous recevoir. Alors, j'en viens au duel Sheriff Bruno. Je dois avouer, garder des munitions, gardez-en sous le coude, s'il vous plaît. Je dois avouer que Bruno est un tout petit peu plus gâté que Sheriff aujourd'hui, puisqu'au sommaire, il y a également de la Première Ligue. La lutte pour le titre est passionnante cette saison, et c'est si qui mène la danse alors qu'on s'approche du dénouement, et on va se poser cette question: Liverpool peut-il revenir? Fin du suspense en revanche en Espagne, le Barça est champion comme d'habitude, ou presque. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Enfin, coup de projecteur en fin d'émission sur Stéphanie Frappard. Elle est devenue ce week-end la première femme arbitre d'un match de Ligue 1. C'était à l'occasion de la rencontre entre Amiens et Strasbourg. Le véritable arbitre de Radio Foot, en fait, pour vous dire la vérité, il se nomme Laurent Salerno, c'est notre réalisateur, et c'est à lui de siffler le coup d'envoi de cette émission.
Free in Amsterdam, and the cards coming out again. I want to put down the microphone and applaud, because it's been a wonderful evening of Champions League football.
C'est bien. Et quel début de match il fait, lui.
Quel début de match il fait, lui.
Mais ils sont en train de faire tourner le match.
Mais il est fou. Non, c'est pas possible.
Je lui ai mis un 10 sur 10.
Oh, Dusan Tadic schiet Ajax naar de kwartfinale van de Champions League.
Attention, corner de Chotré.
Jeune garde de l'Ajax,
oui, pour le faire,
continue d'être insolente, et la vieille dame est tombée.
Quel chemin parcouru par cet Ajax Amsterdam dans cette Ligue des Champions, de l'ombre des barrages, des tours de qualification, au projecteur du Juventus Stadium en quart de finale. L'élite européenne ne semble pas en mesure de résister aux éclairs de génie de sa jeunesse triomphante. Le Real en huitième, la vieille dame de Ronaldo ont subi la loi des De Jong, De Ligt, Van de Beek, mais également Ziyech, Onana. Joseph-Antoine Bell, vous êtes sensible aux performances du portier camerounais. On n'oublie pas des anciens aussi, Tadic, il n'y a pas que des jeunes. Joseph, je vais peut-être profiter de votre présence pour parler, démarrer sur André Onana, un portier africain, un portier camerounais en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas si courant, et j'imagine que ça vous fait plaisir, vous, l'ancien portier des Lions Indomptables.
Je pense que c'est d'abord tout court un bon gardien de but, avant qu'il soit africain ou camerounais, et je suis sûr qu'il est content d'être jugé comme les autres, et il n'y a pas à le rendre lui, exceptionnel, plus que ses partenaires, ils ont tous 19, 20 ans, et lui, il a montré qu'on peut être un Africain camerounais de 20 ans ou de 21 ans, d'être aussi bon que celui qui est né à Amsterdam ou qui serait né en Uruguay. Et c'est, je pense que c'est ce que les Africains devraient toujours rechercher, être jugés avec la même mesure que les autres, et ainsi on progressera.
Alors justement, en quoi est-il un très bon gardien de but comme les autres? Quelles sont ses qualités?
Il est en demi-finale de Ligue des Champions. On n'y arrive pas si on n'est pas bon.
Et lui, quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez lui?
Ben, d'abord, aujourd'hui, un bon gardien de but doit être bon au pied. Et bon au pied, c'est pas mettre le ballon en touche chaque fois qu'on vous le passe. Parce que ça, c'était les consignes des entraîneurs au moment où la règle est arrivée. Et je me suis battu à l'époque avec le mien. C'était Jacques Santini. Parce que je mettais pas le ballon en touche. Donc, ça fait non, on met pas le ballon en touche. On a fait la règle pour que le ballon reste le plus longtemps en jeu. Le gardien doit se mettre à niveau, mais il n'y a pas que lui. C'est toute l'équipe. Si vous ne bougez pas autour, évidemment, votre gardien n'aura pas de solution. Et à l'époque, le problème, c'était que si on ne me donnait pas de solution, je dribblais deux joueurs et mon entraîneur avait une crise cardiaque. Et au lieu de s'adresser à moi, je lui disais, faut parler aux autres. Donc, c'est les autres. Or, l'Ajax le fait très bien. Quand il faut allonger, ben il va allonger. Quand il faut jouer court, il jouera court. Il est bien placé, il sait diriger sa défense et il a évidemment les qualités physiques qu'il faut, c'est-à-dire une très belle détente et surtout les qualités psychologiques. Aujourd'hui, par exemple, il s'agit d'avoir la tête bien froide, ne pas penser qu'il s'agit de demi-finale parce que Tottenham aurait pu être dans un match de poule. C'est aujourd'hui les demi-finales, donc c'est pas le niveau de la compétition qui doit vous changer la manière d'aborder votre match. C'est un match comme les autres et on est avant tout un footballeur professionnel, donc on prend du plaisir à jouer. Il faudrait qu'il sache que demain le jour se lèvera pareil, donc il n'a pas le poids du monde sur les épaules, il a juste un match de foot. Quelque chose qu'il sait faire et qu'il saura faire.
Il est quand même bien accompagné au niveau des gardiens, hein, dans le dernier carré. Hein. C'est ouais. Hugo Lloris, Alisson Becker de Liverpool, Ter Stegen de Barcelone.
Oui.
C'est parmi les meilleurs au monde. Hein.
Mais voilà, donc quoi demander de plus? Ouais. Quand on joue, on veut être parmi les meilleurs au monde, même si on ne le proclame pas, c'est ce qu'on a en soi. Et quand on arrive là, on veut montrer qu'on n'est pas là par hasard. Et moi, je crois qu'il n'est pas là par hasard. Il a beaucoup de qualités, celles que les spectateurs ne voient pas tout de suite, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête.
Justement, Chérif, dans les têtes des joueurs néerlandais avant ce déplacement à Londres, on est comment? On les a vus, en tout cas on a lu qu'ils étaient très détendus avant d'aller à Madrid, notamment ils avaient réalisé un exploit sensationnel en terrassant le Real Madrid 4-1. Cette détente, à votre avis, elle est toujours présente, ouais, cette décontraction, et ce sera toujours la force de l'Ajax ce soir et à l'occasion de la demi-finale retour?
Ils ont toujours été comme ça, c'est ce qui nous a séduit, c'est ce qui a séduit l'Europe, c'est les sourires. Ils prennent plaisir à jouer. Il y a l'interview aujourd'hui dans l'équipe de Van der Sar confirme ça.
Dirigeant, c'est... ancien gardien évidemment, voilà, ça, mais ouais, dirigeant de l'Ajax.
La notion de plaisir, de croquer dans la vie, de prendre les matchs comme ils arrivent, c'est-à-dire que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Non, il y a une vraie... Il y a un mental, et ça, c'est on retrouve aussi, ça, c'est un trait caractéristique des grandes équipes de l'Ajax, c'est les équipes qui jouent en souriant. Des équipes très rock, très pop, qui jouent toujours en souriant, c'était l'Ajax de Cruyff. Ils détonnaient par rapport à l'époque où tout le monde faisait la tronche, et c'était pareil avec les petits jeunes de Van Gaal. Hein. C'est les petits jeunes, ils avaient quoi, 22 ans de moyenne d'âge, et ils rigolaient tout le temps, on se disait, mais comment ils font, et tout.
C'est propre donc, à leur éducation, de toute façon, à l'Ajax, d'avoir l'assurance, que oui, certains parlent... pointer un petit peu comme de l'arrogance, mais c'est néerlandais.
Ça frise l'arrogance par moment, parce que c'est comme ça. Faut savoir que l'Ajax n'est pas un club qui est aimé aux Pays-Bas. On les admire, on les respecte parce que c'est l'Ajax, ils représentent le pays, mais tout le monde doit leur faire la peau. Donc ils grandissent un peu face à cette adversité, qui fait que une fois qu'ils ont passé tous les filtres, c'est-à-dire de la formation et arrivé en équipe première, ils ont pas mal enduré, ils ont pas mal subi. Donc, bah, il reste plus qu'à s'éclater.
Et Gilles, vous les aimez, ces sourires ajacides, ou à votre avis, c'est peut-être l'heure est peut-être venue de moins sourire, d'être moins décontracté et d'aborder cette rencontre pour ce qu'elle est.
Moi j'aime Ligue des Champions. J'aimais tellement Cruyff que je l'aime encore. Que...
C'est un peu la même coupe de cheveux.
Oui, que j'aime tous ses héritiers. Et là, ce sont les héritiers de Cruyff, que c'est lui qui a mis en place cette politique de formation et que ces dirigeants-là, etc., qui a voulu refaire l'Ajax, qui perdait son âme. Après, moi, je les voyais déjà en difficulté au tour précédent, je me suis trompé. Je pense qu'à un moment, peut-être que j'espère me tromper, mais je pense qu'à un moment, cette insouciance totale, à l'ère de ce football-là, de l'ultra-réalisme, de l'argent, si on perd, on est mort, parce qu'il faut plus bien jouer, il faut gagner maintenant. J'ai peur qu'à l'aune de ce football-là, cette insouciance de l'Ajax, elle finisse par se briser sur un écueil. Alors j'avais dit que c'était au tour précédent, ça n'a pas eu lieu. Je crois pas que ce sera cet écueil-là en demi-finale. Je pense qu'ils perdront en finale.
Sachant qu'au tour précédent, ils avaient affronté un club très sérieux, la Juventus Turin, un modèle de sérieux. Ouais. Là, c'est plutôt un autre invité surprise qu'ils affrontent, Bruno Constant.
Pour la première fois, l'Ajax est favori surtout. C'est ça qui peut changer dans les têtes. Même s'ils dégagent une assurance, des sourires, etc., ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu peur avant d'aller à Madrid. Il n'y a pas de raison d'avoir peur avant d'aller à Londres face à Tottenham, qui est en plus équipe qui est un peu en difficulté ces derniers temps. Hein.
Il faudra quand même dire une chose, c'est qu'en football, on perd. Donc, il ne faudrait pas que, quand ils vont perdre, qu'on dise que c'est parce qu'ils étaient insouciants. Ils auront perdu parce qu'ils ont perdu, pas parce qu'ils souriaient.
Bien sûr. Donc, l'approche psychologique, ça ne compte pas tant que ça.
Non, c'est pas que ça ne compte pas. Ils l'auront toujours, mais ils vont tomber sur une équipe plus forte. Il faut savoir que contre la Juventus, je crois, ils avaient pris un but contre le Real Madrid. On a vu ce jour-là que, bon, il suffit pas de sourire pour gagner les matchs, c'est pas ça. On a bien vu que le Real, ce jour-là, a été très réaliste et on pensait que c'était fini pour l'Ajax.
C'est le match aller, le huitième.
Le match aller, bien sûr. Le match aller. Mais seulement le foot a le côté psychologique qui fait que, pour le match retour, le Real pensait que c'était fait. Que les gamins, bon, on leur a montré le réalisme et ce jour-là, quand on regardait, on disait bien, il y a des jeunes. Et il y a de vieux briscards de l'autre côté, donc on a vu la différence et tout le monde a cru que la différence était devenue immuable, donc resterait.
Mais c'est vrai que là, ils ont quand même un statut de favori à assumer. Ils sont face à une équipe de Tottenham dont il manque les deux meilleurs joueurs de la saison.
Et ça, Harry c'est Kane, un problème.
On va en parler dans quelques instants. Restons sur l'Ajax.
D'accord. Donc ils sont forcément favoris et donc il va falloir assumer ce statut et on joue pas forcément de la même manière parce que les regards sont braqués sur eux quoi qu'il arrive. Ça y est, pas de souci.
Mais Bruno, l'Ajax, c'est pas de ce côté-là qu'on devrait être inquiet parce que dans le championnat néerlandais, l'Ajax depuis 30 ans joue en favori, qu'il soit champion ou pas.
Donc ils sont en difficulté.
Et c'est pour ça. Oui,
ils sont en difficulté cette saison.
Vous savez, moi je crois que s'ils émerveillent l'Europe et le monde, c'est précisément parce que l'Ajax a été construit un peu comme Barcelone dans l'idée d'avoir le ballon. On doit donc savoir quoi en faire. Donc on vous a éduqué, on vous a formé pour avoir le ballon et pour savoir quoi en faire. Le problème des équipes ennuyeuses et tout, c'est que ce sont des équipes qui ne veulent pas du ballon, mais qui veulent quand même jouer au ballon et gagner. Donc elles veulent pas du ballon et sont pas belles à voir jouer. Là, on a affaire à des jeunes gens qui ont appris à utiliser le ballon, donc ils ont pas peur quand ils l'ont. Ils perdront ou ne perdront pas, mais ils savent utiliser le ballon. Ils ne redoutent pas d'avoir le ballon, ils veulent l'avoir.
Un football positif, d'une certaine manière. Shérif Guémour, comment elle va cette Ajax avant de se déplacer à Londres sur le terrain de Tottenham ce
ça
soir
va.
Il y a eu un calendrier aménagé, si j'ai bien compris.
Oui,
sur le plan c'est domestique.
C'est un peu l'Union nationale. Non, moi j'ai vu leur dernier match de championnat. Ils ont gagné, c'est où? C'était à
qu'est-ce qui s'est passé en fait là, les dirigeants du foot néerlandais leur ont permis de moins jouer pour se reposer.
Oui, je crois même que c'est le club qui en avait fait la demande. Mais très sincèrement, ça aurait pas changé grand-chose. Je crois que la dernière fois qu'ils ont joué, c'était mardi ou mercredi soir dernier contre Vitesse Arnhem. Voilà, ça me revient. Ils ont gagné. C'était assez convaincant. Et moi, je pense qu'à cet âge-là, on peut jouer tous les trois jours. Donc à la limite, je sais pas si c'est une bonne chose. Alors là c'est la question que se pose.
Pour eux, c'est moins un problème que pour Tottenham. C'est pour ça que Pochettino, c'était un
bien
peu
sûr.
Plein. Tottenham a eu 3 jours de préparation.
C'est qu'en Angleterre, il n'y a pas de passe droit.
Ils sont en bout de course, un bout de championnat en Angleterre qui est très éreintant. Et ils souffrent un peu physiquement. Et c'est pour ça qu'il y avait, Voilà, c'est comme ça. Ils sont aidés du côté de l'Ajax.
Juste une dernière statistique qu'on a déjà, je pense, rappelé concernant l'Ajax, qu'on rappelle un peu à chaque tour. Parmi les 32 équipes engagées qui étaient sur la ligne de départ de cette Ligue des Champions, la deuxième moyenne d'âge en termes d'effectifs, c'était l'Ajax.
Mais c'est ce qui fait leur force.
C'est quand même intéressant et à signaler. Gilles.
Oui, je voulais juste revenir sur l'aspect mental dont on parle beaucoup. À l'Ajax, il y a eu des générations fabuleuses, celle de Cruyff, les trois Ligues des Champions, enfin les Coupes des Champions, Coupes des Clubs Champions à l'époque. Il y a eu 95 avec la victoire génération Rijkaard. Là, perdre, là où ça peut changer mentalement quand même, c'est que si jamais ils sont éliminés en demi-finale, ce sera une génération perdue. Ce sera une génération qui restera comme une génération de l'inachevé. Parce qu'elle aura même pas été en finale et là, c'est la dispersion. C'est là où peut-être à un moment, dans leur esprit, de mon point de vue, il peut y avoir l'ombre d'un doute. Si on perd en demi-finale, finalement, est-ce que ce serait pas un échec par rapport à notre potentiel?
Il faut rappeler l'un des dangers aussi pour l'Ajax, c'est qu'en face, il y a un adversaire ce soir dont on va parler, les Spurs de Tottenham. On va revenir sur leur parcours dans cette Ligue des Champions.
On revient, le centre d'Aurier, bon ! Man of the match, Yann Vertonghen !
This stadium is going to make a massive, massive difference to the people of Tottenham.
Et voilà, il repousse celui de Sergio Aguero. Explosion de joie dans le Tottenham Hotspur Stadium.
Hugo Lloris.
Sunny shine.
Kevin John. Paris champion d'Anderson.
Sol Gassis. Oh, qu'il a bien fait d'assister. Sensationnel.
Il a de la place, Eriksen. Oulalalala.
Harry Kane. Sterling. Il le fait. Manchester City. L'improbable exploit. Le but est refusé. Ce match est dingue jusqu'au bout.
Oui, ils auront marqué les esprits aussi, les Spurs de Tottenham, Bruno Constant, en quart de finale avec ce match retour extraordinaire à City, avec ce but refusé pour City qui aurait scellé la qualification des Citizens et qui au final, donc grâce à la VAR, ce sont les Spurs qui sont passés. Il y a eu également le Barça et l'Inter qu'il a fallu dompter, même si le Barça est également passé en phase de poule. Dortmund avec une victoire à Dortmund en huitième de finale. Très beau parcours également des Spurs de Tottenham.
Ouais, qui sont un petit peu dans l'ombre de l'Ajax finalement, parce qu'ils ont un parcours exceptionnel, mais on ne parle que de l'Ajax. Et Tottenham, c'est une énorme surprise, même si ça confirme la saison passée où ils étaient sortis d'un groupe avec le Real Madrid et Dortmund. Ils étaient sortis en tête, ils avaient bousculé la Juve, ils s'étaient fait éliminer au match retour et de pas grand chose. C'est une équipe qui apprend énormément avec Pochettino, et effectivement ce parcours face à Dortmund, face à Manchester City, moi je trouve que c'est Tottenham est peut-être la pire équipe pour l'Ajax en fait, sur les trois dernières équipes qui étaient avec eux pour ces demi-finales, parce que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer face à des équipes qui ont un jeu offensif comme Dortmund, comme Manchester City, des transitions rapides, donc ils sont habitués à ça. C'est une équipe qui sait souffrir, qui sait bien défendre et qui ont les armes aussi pour piquer. Et il y a l'absence de Kane évidemment, dont on parle beaucoup, mais Kane était, faut rappeler qu'il n'était pas là sur le match aller face à Dortmund, ils ont gagné 3-0 à domicile. Il n'était pas là sur le match retour face à City et se sont qualifiés quand même.
Alors justement, un petit point infirmerie avec vous concernant les Spurs, pas de Kane qui reviendrait éventuellement en cas de finale de Ligue des Champions, c'est ça?
Ouais, c'est la rumeur.
C'est même pas sûr. Pas de Son, très
pas
important.
De Son qui est suspendu, qui est deuxième meilleur joueur offensif derrière Harry Kane.
Lamela pas là non plus.
Lamela est blessé, Aurier est blessé. Harry Winks qui est un très bon milieu de terrain et qui s'était imposé dans cette équipe est également absent.
Sissoko, le français.
Sissoko qui serait de retour après avoir manqué les trois derniers matchs avec les Spurs, avec problème à l'adducteur. Donc ça, c'est un énorme retour parce qu'il est excellent cette saison. Donc il va y avoir de l'impact physique au milieu de terrain à Tottenham, je pense. Et après, devant, voilà, c'est Lucas Moura, l'ancien parisien, et Dele Alli qui doit se réveiller alors qu'il est endormi depuis plusieurs semaines.
Dele Alli. Non, mais...
Vous tremblez, shérif?
Non, c'est pas ça. C'est que, comment dire, moi je retiens ce qu'a fait Tottenham au tour précédent. Quand ils ont gagné 1-0 à l'aller, pour moi il y avait danger pour Manchester City. J'étais pratiquement sûr qu'ils avaient laissé passer la qualification à l'aller. Parce que comme l'a dit Bruno, c'est une équipe qui sait souffrir, qui défend plutôt pas mal, qui sait piquer, qui sait marquer des buts. Et moi je me méfie des équipes A prime, B, avec des absents...
C'est vrai.
Il y a de quoi faire des surprises. Hein. Je veux dire, un Lucas Moura, c'est un exploit personnel, 1-0. Puis après, ça Je suis pas si rassuré que ça, mais si j'ai un pronostic à faire sur l'ensemble des deux matchs, je dirais que oui, l'Ajax est favori.
Joseph Antoine Bell, vous êtes d'accord? C'est pas parce qu'il y a des absents et des grands absents de l'autre côté qu'il faut commencer à ne pas se méfier.
Non. il y a, moi, j'ai deux manières de réagir. En tant qu'observateur, je suis mal du fait que Kane ne soit pas là, Son aussi, qu'ils
appellent. On a envie de voir les meilleurs équipes.
Voilà, moi j'aurais voulu voir.
Parce que Son, il est très, très, très bon. Harry Kane aussi, j'aime voir de bons joueurs. Maintenant, je sais aussi que les équipes, en tant qu'adversaires ou éventuellement entraîneurs, quand une équipe a des absents, il faut se méfier parce que, évidemment, il y a des gens derrière. On a ouvert l'émission avec ça, avec André Onana qui a pris la place d'un blessé. Donc l'adversaire qui est arrivé ce jour-là en disant « Profitons, Tim Krol n'est pas là », il s'est cassé les dents. Donc il faut faire très 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 attention dans le milieu professionnel. Ceux qui sont derrière, ils ont envie de prendre la place, ils ont envie de montrer.
Personne n'est irremplaçable, voilà, clairement. Chérif Guémot.
Un dernier petit mot, on ne souligne pas assez l'excellence de Loris, qui pour moi...
En Angleterre, on le souligne. En France, un peu moins.
Tu vois, c'est pour moi le meilleur gardien de but du monde.
Ah, vous êtes d'accord, Joseph Antoine Bell. Je suis obligé d'interroger Joseph Antoine Bell.
Non, non, mais
confirme-t-il
Il est champion du monde avec un arrêt décisif à chaque match. J'ai l'impression que parfois, en France, on l'oublie. On ne voit que sa cagade contre Arsenal.
Mais c'est ce genre de choses.
C'est qu'il faut savoir. Entre guillemets, en finale de Coupe du Monde aussi.
Voilà.
Si je peux me permettre.
C'est le privilège des grands.
En fait, le rôle de gardien, c'est en cela qu'il est vraiment délicat, c'est qu'on se souvient plus facilement, et d'autant que quand vous en faites une, elle est au fond. Un joueur qui rate une passe au milieu de terrain, c'est pas toujours un but derrière, même si quand ça le devient, ben, les caméras s'attardent sur celui qui a raté la passe. Mais je pense que Hugo, quand il arrête le pénalty
face à Manchester City,
face à City, si City qui s'est joué mène 1-0. Évidemment, c'est cuit pour Tottenham.
Ça a peut-être été l'un des tournants.
Et au retour, il fait les deux arrêts décisifs.
Hugo sait être décisif, mais la relance face à la Suède, puis en Coupe du Monde, puis l'autre fois,
contre Liverpool.
Il y a un peu de déchet. Gilles Verdez.
Il y a un joueur, moi, que j'adore et je trouve extraordinaire, extravagant, mais dans le sens positif que Tottenham soit suspendu à son chevet, c'est Moussa Sissoko, parce que c'est quand même un joueur qui a été vilipendé énormément de critiques footballistiques.
Pourquoi? Parce qu'il a été replacé dans l'axe, tout simplement. Quand on le mettait sur un côté, c'était
dans l'axe ou sur un côté, parce qu'on le mettait. Il a été extrêmement critiqué, et maintenant on voit que Tottenham fait tout avec son staff médical pour le remettre sur pied, tellement il est essentiel. C'est un joueur qui est toujours critiqué et toujours essentiel. J'aime bien ça.
C'est exceptionnel. Il est revenu, il a fermé des bouches.
Et il avait bien réussi en équipe de France.
C'est à ça que je faisais allusion.
Voilà, donc Sissoko, en réalité, est un très très bon joueur. Est le genre de joueur dont les entraîneurs raffolent parce qu'il a un coffre grand comme ça. Il est costaud, il court, il va vite, il aime travailler.
Les entraîneurs comme Deschamps, Pochettino adorent ce genre de joueur qui, justement, a un impact phénoménal.
Un dernier mot sur Tottenham, Bruno Constant, ce nouveau stade, comment on l'appelle, le
Tottenham Hotspur Stadium.
Tottenham vient de perdre dans son nouveau stade pour la première fois contre un rival, West Ham, avec une histoire d'écharpe sur laquelle on va pas revenir.
C'est surtout qu'ils sont un peu à bout de souffle et un peu fatigués mentalement. On a l'impression que l'exploit face à City, ça leur a coûté mentalement. Ils avaient déjà arraché le succès face à Brighton dans la semaine, en toute dernière minute, et là ils ont perdu face à West Ham, un voisin, qui leur coûte pas trop cher heureusement dans la course au top 4, mais effectivement ils sont un peu en difficulté, mais voilà, ils ont des ressources mentales grâce à cet entraîneur Mauricio Pochettino, et puis rappelez qu'il y a trois anciens joueurs de l'Ajax à Tottenham, Vertonghen, Alderweireld
et Eriksen.
Effectivement. Ouais. Donc il y a une vraie filiation entre ces deux équipes surprises de la Ligue des Champions. Première demi-finale européenne, je passe sous votre contrôle, depuis 1962. Ouais. Pour Tottenham, ça c'est incroyable. C'est assez vertigineux, c'est clairement...
Ils ont fait le doublé en 61.
C'est clairement une autre époque. Tottenham, Ajax, Amsterdam, coup d'envoi de cette demi-finale allée de la Ligue des Champions à 19h temps universel. On reviendra sur ce choc tout à l'heure en direct dans Radio Foot International. Rendez-vous à 21h10 dans Universel.
Sterling curls that one in. He's got another winner. Raheem Sterling with a wonder strike right at the death.
Hi guys, it's Raheem here. Sorry I can't make it down. You know, it's a lovely honour to win this award. You know, I just want to say a massive thank you.
It's a decent looking corner. Pickford didn't get it. Van Dijk did it. Virgil van Dijk on debut.
It's unbelievable.
Obviously, winners award voted by all the players you play against week in, week out. It's fantastic. I think it's the highest honour you can get. Really proud. Really proud. So, yeah, thank you very much.
Bon, les Anglais ne font clairement jamais rien comme tout le monde. Ils n'ont pas un seul meilleur joueur de la saison. Ils ont deux meilleurs joueurs de la saison. L'un désigné par les journalistes, l'autre désigné par les autres joueurs. Am I right? Est-ce que tout est bon? Raheem Sterling a été désigné meilleur joueur de la saison par les journalistes. Mmh. C'est Virgil van Dijk, le meilleur joueur selon les autres joueurs. Sterling, il joue à City. Van Dijk, il joue à Liverpool. Ça tombe bien. City est en tête, 92 points. Une unité de plus que Liverpool à trois journées de la fin. Ce sont les deux équipes qui vont se disputer le titre. Ce week-end, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Succès des Reds face à Huddersfield, 5-0. Les buteurs Keita, Mané, Salah. Bon, vous dites qu'il faut pas forcément pointer du doigt uniquement les joueurs africains parce qu'ils sont africains, mais Liverpool est quand même un club qui met en valeur le football africain. Vous me l'accorderez, ça, Joseph Fontanel.
Oui, on peut toujours après aller dire cela, mais avant tout, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Liverpool a de bons joueurs. Voilà. Keita, Sané et Salah sont de très, très, très bons joueurs. Et donc on est content de les voir ainsi, et on est content de les voir à Liverpool et de voir ce qu'ils apportent.
Et on les verra à la CAN.
On les verra à la CAN, et une CAN en fin de saison, ça veut dire qu'on les verra dans de meilleures conditions, et voilà.
Espérons. Victoire 1-0 également ce week-end de City à Burnley, but d'Aguero à la 63e. Qu'est-ce qui se passe, Gilbert? Vous levez la main de manière...
Je suis dépité, désabusé et en colère.
Contre moi?
Pas contre vous, contre certains journalistes, anglais notamment.
De pas avoir voté pour
Mané. Et certains techniciens. Mais c'est non seulement une hérésie, une absurdité, je dirais même, vous m'excuserez, que c'est une insulte à l'histoire. Parce que comment on peut ne pas couronner Sadio Mané après la saison qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être couronné? Marquer 67 buts? Peut-être qu'il sera champion, peut-être pas. C'est eux aussi qui votent avant que la saison soit terminée. Donc là, ils sont pris à leur propre piège. Mmh. Mais comment on peut ne pas lui accorder au moins une des deux couronnes, celle des journalistes parce ou celle des joueurs? C'est absurde, absurde.
Parce que non, pas totalement. Parce que en fait,
pas totalement.
Est-ce que je peux juste vous donner une statistique qui va peut-être vous faire réfléchir? Aucun joueur n'a réussi à dribbler Virgil van Dijk en 36 rencontres de Premier League cette saison. Est-ce que vous ne la trouvez pas un tout petit peu vertigineuse quand même cette statistique?
Non, mais pour Van Dijk, le titre, il est largement mérité. Ça. Il est juste monstrueux. C'est le joueur qui a transfiguré Liverpool, qui en a fait d'un candidat aux quatre premières places de Premier League à un candidat au titre. Et il a vraiment consolidé cette défense. Et vraiment, il a tout changé à Liverpool. Son apport est juste énorme depuis un an et demi. Ouais. Et donc Van Dijk, il n'y a pas de contestation. Sur Sterling, il peut y avoir débat parce qu'effectivement Mané fait une saison exceptionnelle. Après, il faut rappeler que le trophée donc de l'association des journalistes britanniques englobe davantage que le sportif. Il y a aussi l'attitude du joueur en dehors du terrain. Il y a aussi ses performances en sélection. Effectivement,
c'est plus Sterling. C'est plus chauvin.
Non, c'est pas
forcément.
Il
y a vraiment l'homme qui passe au-delà du, enfin qui va également à côté du footballeur. Et Sterling, il s'est illustré cette saison. En dehors du football, notamment son engagement contre le racisme, son engagement, là il vient d'inviter 500 gamins à la finale de la Cup. C'est quelqu'un qui est en train de se révéler depuis un an, qui a été très critiqué en Angleterre et qui se révèle, qui s'engage, et ça c'est intéressant, c'est important en Angleterre.
Chéri Guémour.
C'est très très important dans le football anglais, notamment vis-à-vis des médias. Chaque année il y a des espoirs nouveaux qui arrivent, en général c'est des attaquants. On mise énormément sur eux, à la fois dans leur club et puis au niveau de la sélection. Il y a une époque, c'était Rooney. Quand Rooney est arrivé, il a tout cassé avec Everton. On s'est dit, est-ce qu'on tient enfin une petite merveille, mais qui va durer? Parce que les petites merveilles, on en voit défiler tous les ans, surtout des attaquants. C'était le cas de Sterling. Moi, quand je suis arrivé, je pensais un peu comme tout le monde, y compris les journalistes anglais. Que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va rester sérieux et atteindre le niveau qu'on lui prédit? Ou alors il va se perdre? Finalement,
surtout qu'il
non,
avait été vendu très cher, très jeune, 18 ans, 50 millions de, d'euros. Que ce
beaucoup de frasques, ouais. beaucoup ouais. De sorties de piste un peu, tu vois. Et finalement, il a
oui,
confirmé.
Mais aussi des polémiques un peu injustes. Je me souviens d'un tatouage
oui,
où il
oui,
avait été
oui,
mal interprété.
Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est moi j'avais quelques doutes, ne serait-ce que sur le footballeur, le joueur, le buteur. Personnellement, il m'a pas mal convaincu, aussi bien en club qu'en sélection. Mmh. Et en sélection, il est en train de faire son trou. Et avec une sélection qui est en train de prendre vraiment, vraiment son essor. Donc, là, quelque part, je suis relativement d'accord. Mais, dommage pour Sané.
Je vais juste calmer, en disant que dans la caste des
Joseph
meilleurs.
Antoine, ça fait des années qu'il essaye de me calmer et il est ici, lui.
dans la caste des meilleurs, malheureusement, on peut pas en avoir qu'un seul. C'est comme lorsque, moi j'ai connu ça, vous êtes un très grand gardien de but, sauf que la nature vous en a envoyé un autre. Donc on ne joue pas avec deux gardiens de but.
Vous parlez d'une rivalité en sélection
camerounaise. Donc finalement, oui, il y en a un qui joue, l'autre sera remplaçant. Et ce jour-là, ceux qui adorent l'un peuvent être très tristes, mais en réalité ils ont tort, parce que celui qui joue est absolument aussi bon. Donc là, on est désolé pour Mané, on est déçu, mais ceux qui ont eu le titre le méritent autant que lui. Ça aurait pu être lui, on aurait pleuré pour les autres. Donc là, je crois que effectivement Mané est en train de faire une grande, grande saison, mais...
C'est ça, moi je trouve que ça, c'est déjà bien qu'on parle de lui à ce niveau-là, voilà, parce que ça récompense vraiment sa saison, il est donc, exceptionnel.
Et sachant que Salah n'a pas été...
Aussi, il doit continuer,
oui,
il ne va pas s'arrêter là.
Non, mais sauf qu'on parlait d'exemplarité du joueur et aussi de l'homme, pourquoi il est tant apprécié en Afrique, au Sénégal particulièrement, dans toute l'Afrique et dans toute l'Europe? Parce que lui n'a pas le côté fantasque que certains attaquants peuvent avoir, il est hyper rigoureux, c'est quelqu'un d'exemplaire au niveau du comportement, donc quand on me dit qu'on vote aussi pour un homme, il réunissait toutes les qualités, il cochait toutes les cases. Mmh. C'est pour ça que j'ai tenté de m'insurger avant que Joseph Antoine ne fasse entendre.
Les engagements, Joseph Antoine, j'ouvre une petite parenthèse. Les engagements dont parlait Bruno contre le racisme, est-ce que ça vous touche particulièrement qu'un joueur prenne position sur un problème aussi grave et malheureusement encore présent et encore récurrent?
Logiquement, ça touche tout le monde. Mais il ne faut pas dire qu'un joueur prenne position, qu'un homme prenne position. Moi, ce que je voulais et ce que j'aime, c'est que les gens sachent qu'avant d'être joueur, on est des hommes comme tout le monde et que à ce titre-là, faut se révéler, faut montrer qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Donc, si vous ne vous indignez pas face à une injustice, c'est pas parce que vous êtes footballeur ou parce que vous êtes menuisier, c'est que vous êtes un homme un petit peu incomplet. Donc voilà. Donc on est content parce que là, les footballeurs, ce sont des hommes publics. Et de découvrir qu'à côté du ballon, ils savent s'indigner devant une injustice, ils savent être solidaires d'une vulnérabilité. Ça, c'est, je crois que c'est ça qui touche les gens. Et il faut pas faire comme si c'était spécifique aux footballeurs. On est content qu'un menuisier ait la même attitude qu'un journaliste, qu'un ceci ou cela.
Donc c'est une attitude d'homme.
C'est une attitude d'homme qui est valorisée et c'est très bien.
Et c'est très bien comme ça, Bruno. Leur tourne, on ne va pas avoir beaucoup de temps de s'étaler sur le sujet. Le succès 1-0 de City à Burnley, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'était pas le dernier test pour City, est-ce que c'était pas le dernier obstacle à franchir pour les Citizens? Il reste 3 journées, est-ce que selon vous le championnat est plié ou bien non, on va trembler ou vibrer plutôt jusqu'à la fin?
C'est ce qu'on disait, on disait que le dernier obstacle pouvait être Burnley parce que c'est compliqué d'aller gagner à Turf Moor, parce que c'est une équipe qui est compacte, qui défend en bloc, pour pas dire qui défend à 10 derrière parce qu'elle sait aussi attaquer, et ça a été compliqué pour City, donc ça s'est vérifié, même s'ils ont eu un pénalty refusé et que dans l'ensemble ils ont largement dominé et que Burnley n'a pas cadré une seule frappe, donc on peut estimer que c'est logique que City s'impose. Mais il y en a un autre qui arrive derrière, qu'on n'avait peut-être pas vu venir, qui s'appelle Leicester, qui est entraîné par un manager, Brendan Rodgers, ancien de Liverpool. Il avait perdu le titre avec les Reds en 2014.
La fameuse glissade de
Steven Gerrard. Mmh. Il l'avait perdu face à Manchester City. Et Leicester est le prochain adversaire de City à l'Etihad Stadium. Et c'est une équipe qui réussit plutôt bien face au gros. Ils viennent de battre Arsenal. Ils ont tenu en échec Liverpool à Anfield. Ils ont battu Manchester City cette saison à Leicester. C'est peut-être l'équipe qui peut faire trébucher les Citizens.
Alors, il reste 3 journées de Premier League, 3 matchs en championnat d'Angleterre. Pour Manchester City et pour Liverpool, deux, pardon, et il effectivement deux. Je sais pas pourquoi j'ai dit trois, c'est parce qu'il reste trois matchs à Manchester City avec la finale de la Cup, c'est ça, contre,
oui,
contre Watford. Donc effectivement deux journées de la fin, faites bien de me corriger. Il reste également une autre échéance d'importance pour Liverpool, évidemment une demi-finale de Ligue des Champions à jouer contre le Barça. Et justement, on va parler du Barça.
Suárez, zurda. Pedía mano Vidal en el área.
À peine vous faites résonner l'hymne du Barça dans ce studio, il accourt aussi vite qu'il le peut, Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour.
Vous avez fait votre apparition, c'était totalement inattendu.
Ah oui, c'était Messi filant vers le but.
Messi qui a offert un nouveau titre de champion au Barça, c'était ce samedi, à trois journées de la fin, là, cette fois en Liga, là je me suis pas trompé. Victoire 1-0 face à Levante, c'était juste ce qu'il fallait pour remporter la 26e Liga de l'histoire du FC Barcelone. 8 titres sur les 11 dernières saisons de Liga, 8 titres de champion, je vais les donner, allez, rapidement, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019, c'est assez incroyable. On rappelle quand même au passage que le Real Madrid joue également la Liga, l'Atlético de Madrid dispute également ce championnat, et pourtant il n'y en a que pour le Barça. C'est comment vous l'expliquez ? Parce que les entraîneurs ne sont pas les mêmes, les joueurs ne sont plus les mêmes, et pourtant la Liga, elle est quasiment tout le temps pour le Barça.
Oui, mais c'est pas un hasard si on dit justement les 11 dernières saisons. Pourquoi les 11 ? Parce que ça correspond à l'arrivée à Barcelone comme entraîneur de Pep Guardiola, et c'est vrai que on peut penser qu'on est toujours dans un cycle qui a commencé avec lui, un cycle qui a permis au Barça de retrouver un peu ses racines, de partir d'une génération assez exceptionnelle formée à la Masia, le centre de formation de Barcelone. Et puis, malgré les aléas, les changements d'entraîneur, les déceptions, parce qu'il y en a eu, il y a eu une constante qui a été mettre la qualité du jeu devant tout le reste, et en même temps une équipe extrêmement compétitive, extrêmement ambitieuse, avec comme fil conducteur bien sûr Lionel Messi qui a gagné 10 titres nationaux avec Barcelone.
Donc il y a une vraie cohérence entre tous ces Barça malgré que Guardiola ne soit pas là, par exemple. Ne soit plus là.
C'est vrai que les styles ont un peu changé parce qu'il n'y a plus Iniesta, il n'y a plus Xavi, les joueurs ont changé. Aujourd'hui, on a un Barça peut-être un petit peu moins étincelant, mais beaucoup plus équilibré, qui défend bien et qui arrive quand même à emballer les matchs quand il le faut. Un Barça plus réaliste, peut-être un peu plus froid, mais qui est toujours quand même très, très efficace.
C'est quand même surprenant, non ? Ça vous surprend pas un peu cette domination outrageuse du Barça en championnat, alors que le Real a dominé outrageusement la Ligue des Champions
dans le même temps. Mais vous avez tout dit. Si vous prenez sur quelques coups, vous pouviez avoir, pas celui de cette année, mais le Real Madrid supérieur grâce à sa détermination, Zidane, Ronaldo. Mais sur la régularité, sur une saison, sur un nombre de plusieurs dizaines de matchs de championnat, avec cette structuration du Barça, sauf quand l'Atlético fait une saison de rêve, ils sont injouables pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pense que vous les mettriez en Angleterre, ils seraient champions. C'est trop régulier. Messi est trop fort. 34 buts, 15 passes. Vous aviez Neymar. Maintenant, vous avez Dembélé ou d'autres. Vous avez toujours Suarez qui marque un nombre de buts considérable. Il en est encore à 21, là, 6 passes. Donc, en championnat, pour moi, cette équipe, sur une régularité, elle est totalement injouable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. La régularité, c'est moins clinquant, peut-être, qu'un parcours héroïque en coupe, en Ligue des Champions, comme ceux du Real ces derniers temps.
Oui.
Ça peut paraître plus ennuyeux de remporter le championnat, mais la régularité, quand on est sportif de haut niveau, Joseph-Antoine Bell, c'est ce qui est le plus dur, non ?
Mais quand on disait tout à l'heure pour Mané, s'il ne gagne pas cette année, il ne faut pas se dire c'est cette année ou pas quand on a 22, 23 ou 24. 4 ans, non. Et il faut être régulier. Bon, je ne l'ai pas gagné cette année parce que quelqu'un m'a devancé d'un demi-point. L'année prochaine, si j'y suis toujours, ben, je vais gagner. Donc là, le Barça, c'est exactement ça. Ils sont réguliers. Mais je crois que les ingrédients, et le principal, c'est dans la conception même, dès le départ, de dire « on joue pour le public ». Donc, il faut un football positif. On gagnera plus souvent qu'on ne perdra. Et aujourd'hui, cette idée-là est arrivée à maturité à Barcelone, qui fait qu'ils ont toujours envie de bien jouer. Ils ont l'obligation de bien jouer. Et ils ont découvert, tout le monde a découvert le plaisir qu'il y a à bien jouer. Parce que souvent, les joueurs et leurs entraîneurs oublient que quand vous jouez mal, vous courez quand même 90 minutes.
Donc, ça peut être fatigant aussi de jouer mal. Chérif Guémour, je vais tomber un peu dans un raccourci, mais derrière le Barça de ces dernières années, de cette dernière décennie, il y a aussi l'ombre de Johan Cruyff comme derrière le projet de l'Ajax. Ça doit quand même vous faire plaisir, ces constats, non pas d'échec, oui, mais plutôt de réussite. Non, c'est du folklore, c'est... J'extrapole un peu.
Non, il y a une filiation authentique. Guardiola s'est toujours réclamé de l'héritage de Johan Cruyff, mais... par rapport à tout ce qui a été dit, oui, je suis d'accord, il y a une régularité assez impressionnante. Faut pas oublier que c'est que des internationaux, que dès que les matchs de Liga sont finis, ils s'éparpillent aux quatre continents parce que, justement, ils retrouvent un tel le Brésil, un tel l'Uruguay. Et donc, c'est les joueurs qui sont très, 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 très sollicités. Ils maintiennent toujours le même degré d'exigence. En même temps, on a cité les titres, mais il y a quand même 3 Ligues des Champions. Donc il y a un
nombre impressionnant de coupes d'Espagne, ouais. Parce que
aussi
ils peuvent la gagner encore cette saison en finale à venir contre Valence.
Donc voilà, c'est impressionnant, mais quelque part on en revient toujours à la même chose, et là je rejoins ce que dit notre ami. C'est aussi l'identité de jeu qui fait que quand l'identité de jeu elle est placée, on n'a plus de problème existentiel, on ne court plus dans le vide, parce que c'est aussi ça, c'est, je veux dire, OK, on n'est plus dans la possession de Guardiola qui fait que bon, on mène très vite au score et puis ensuite bon, on empile les buts et on garde le ballon. Il y a toujours quand même une maîtrise tactique, il y a une vraie identité de jeu, et quand on a une identité de jeu, on se fatigue moins psychologiquement et moins physiquement. Ouais, pourquoi Messi dure aussi longtemps? C'est parce que évidemment c'est un surdoué, mais parce que lui est tout autour, Rakitic aussi, mais bon, après il y a un peu de fatigue, c'est normal, mais tout simplement c'est comme c'est une équipe qui est bien en place, qui a pas besoin de multiplier les courses, de courir dans le vide ou quoi que ce soit, et ben il s'économise aussi. Une fois de plus, on le soulignera jamais assez. Bien jouer, c'est aussi s'économiser, c'est aussi durer.
C'est un peu en résonance à ce que disait José Fontenelle.
C'est aussi la principale différence entre le Real et le Barça. Il y a une équipe qui est construite sur l'éducation, sur la formation, sur l'idée du collectif. Alors que le Real, c'est quoi? C'est un club de stars. Et que tout passe par recruter les nouvelles stars. Et Florentino Pérez, il mise tout sur ça. À chaque fois, avoir la dernière star dans son équipe.
Le Barça a acheté des stars aussi. Oui, mais il y en a eu, mais je veux dire,
la politique du Real Madrid passe par les stars. Il faut acheter des stars pour faire plaisir au public.
Mais quand ça marche.
Et c'était Cristiano Ronaldo. Et cet été, ça sera Eden Hazard pour reconstruire et d'autres. Parce qu'il faut ça au Real. Il n'y a pas d'idée forcément du collectif. Et on l'a vu, les 3 dernières Ligues des Champions du Real Madrid avec Zidane, dans le jeu. En championnat, c'était très moyen.
Ah, mais c'est de la Chine.
Après, je trouve qu'il y a un côté un peu réducteur à dire, par exemple, le Real achète les Galactiques, le Barça forme les Galactiques. Avant de vendre grassement Neymar, le Barça l'avait acheté. Donc, je suis d'accord avec vous, ils ont quand même acheté des stars. Il y a un budget qui est énorme.
Il avait acheté très jeune et été assez largement façonné.
Absolument. Ouais. Ils repèrent très bien. Ils ont des bons scouts. Ils savent très bien quel très bon joueur acheter pour entrer dans leur effectif et adopter leur plan de jeu. Mais il y a aussi des échecs en matière de recrutement au Barça, parfois.
Oui, bien sûr.
Rapidement, derrière Messi, derrière les stars, quelques hommes du titre.
Je pense qu'il faut surtout souligner que Barcelone a aussi un excellent gardien, qui est Ter Stegen, peut-être le meilleur du monde aujourd'hui.
Le deuxième.
Et puis une défense qui tient vraiment la route, avec un piqué qui n'a jamais été aussi bon, aussi solide derrière. Et maintenant qu'il a quitté l'équipe d'Espagne, ça lui permet de se concentrer vraiment là-dessus. L'anglais qui s'est fort bien adapté à ça. Et puis Jordi Alba à gauche, Semedo ou Sergi Roberto à droite, c'est très solide.
Merci, Alejandro Valente, d'être passé rapidement nous parler du Barça. C'était la moindre des choses. Les 5 dernières minutes de l'émission, on va revenir sur un événement ce week-end en Ligue 1.
Pouvez-vous nous dire comment devient-on femme arbitre? On a parlé de vocation pour vous. Vous aimez vraiment beaucoup le football?
Oui, j'aime le football.
Vous avez déjà joué?
Oui. Avec des garçons.
Avec des gosses de la rue, disons.
Alors, comment vous est venue la vocation pour l'arbitrage?
Mais c'était la seule manière de participer au jeu, alors je suis devenue arbitre.
Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous de diriger des hommes sur un terrain? Est-ce qu'ils vous obéissent bien?
Oui, bien sûr, ils obéissent toujours. De toute façon, l'arbitre est le seul maître sur le terrain.
À votre avis, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la place d'une jeune fille de faire de s'adonner à cette activité?
Non, c'est pas précisément la place d'une jeune fille, mais vu que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le monde moderne, il peut y avoir des femmes arbitres.
Vous espérez vous marier un jour?
Oui.
Et vous pensez que si vous étiez mariée, vous arbitreriez quand même?
Oui, pourquoi pas.
Oui, après tout, pourquoi pas.
Alors ça s'est pas passé ce week-end, ça s'est passé il y a beaucoup plus longtemps, une archive INA qui remonte qui date de 1967. Ce week-end, on a parcouru pas mal de chemin, de 1967 à ce week-end et la 34e journée de Ligue 1. Stéphanie Frappard, 35 ans, a arbitré la rencontre entre Amiens et Strasbourg, rencontre donc du championnat de France de première division. 0-0 score final, Stéphanie Frappard, 35 ans, première femme arbitre dans un match de Ligue 1, sous vos yeux. Chérif Guémour, vous étiez Amiens.
J'y étais.
Vous avez donc assisté à une première historique et ça s'est très bien passé.
Ça s'est très bien passé, elle s'est fait respecter. D'ailleurs, elle était un beau maillot orange, donc ça force le respect. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Elle a su intervenir quand il le fallait. Non, mais le propre d'un bon arbitre, c'est de ne pas se faire remarquer. Donc voilà, elle s'est pas fait remarquer. Elle a pas sorti des cartons jaunes intempestifs. Les joueurs l'ont respectée parce qu'elle était près de l'action. Physiquement, on s'était posé la question parce que c'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser pour les vraies compétitions quand même des champions où ça va vraiment à 100 à l'heure. C'était pas une rencontre exceptionnelle.
La Ligue 1, ça va pas à 2 à l'heure non plus.
Non, mais c'était un match très fermé. Il y a 0-0. Malgré tout le respect pour les deux équipes, c'était une purge. Hein, donc voilà. Vaut mieux commencer par une purge. Bah oui, j'y étais.
Oui, mais c'est un match qui est en train de se
faire. On m'a réveillé à 3 reprises. Non, je plaisante. Et donc voilà, elle a fait preuve d'autorité, de compétence. Et puis voilà, quoi, elle s'est pas fait remarquer. Mais surtout, elle est intervenue au bon moment. Par exemple, quand ça commençait un peu à s'énerver, des chocs et tout, elle était là présente. Et voilà, du regard, elle s'est fait respecter, et puis c'est tout ce qu'on peut dire.
Elle avait déjà officié en Ligue 2 chez les hommes,
ouais.
Et elle arbitra des rencontres de la Coupe du Monde féminine à venir en France.
Mais en écoutant votre archive de 1967, là, une réflexion me venait parce qu'on vient de très très loin. Même si on ne prend pas 67, on prend avant la Coupe du Monde 98, et à 25 ans, il y avait très peu de femmes dans le foot en général. Les femmes journalistes dans le foot étaient carrément exclues. Mmh. Les femmes patronne, comme aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de la Ligue. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de femmes dans le foot. Le foot féminin était balbutiant. Donc, on revient de très loin. Donc,
pourquoi on vient de très loin? C'est une évolution?
Non, on vient de très loin. Il n'y avait pas de femmes dans le foot.
Donc, le foot était... 1967, on a évolué.
Ah, le foot était machiste, shérif.
Il y en a une, en football français.
Mais oui, une, voilà.
Nelly Viennot dans les années 90-2000.
Nelly Viennot. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de femmes dans le foot. Donc, l'avènement des femmes, il est merveilleux. Il est tardif, mais il était temps quand même.
Il y avait des femmes journalistes.
Très peu. Les choses,
j'ai connu Marianne Mato. J'ai connu Frédéric Galametz.
Les choses.
Il y en avait deux. Une à Marseille, comment elle s'appelait. Mais...
Hélène Foxenet.
Elle est en 30 secondes, je vais vous donner le mot de la fin. Vous disiez qu'il ne faut pas avoir les joueurs africains comme des joueurs africains, mais des joueurs tout court. Et même chose, j'ai envie de dire, pour les arbitres féminins ou les
femmes
qui vont œuvrer dans le monde du football.
Ce que les joueurs veulent, et le public probablement aussi, c'est simplement quelqu'un qui sait interpréter les règlements et qui vous les applique au bon moment. Vous n'avez rien à dire quand c'est fait. Autrefois, les joueurs n'apprenaient pas vraiment le règlement, ils apprenaient sur le tas. Aujourd'hui, je pense que tout le monde apprend le règlement, donc on sait reconnaître celui qui l'applique bien, et puis voilà, bravo à elle, mais ça va devenir courant.
Merci Joseph-Antoine Bell, merci pour votre visite, merci Chérif Guémour, merci Bruno Constant, merci Gilles Verdez, merci Alejandro Valente. Radio Foot revient tout à l'heure en direct pour débriefer Tottenham Ajax. Rendez-vous à 21h10 temps universel.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.